écoutez les programmes de Studio Kalangou. Il vient d'être à 17h, l'heure de votre grande édition d'information au micro Nafis Adam Sirfo. Au sommaire, ce 20 juin est célébrée la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, le représentant de l'UNHCR a indiqué que le Niger est l'un des pays qui donne la chance aux réfugiés à travers leur inclusion. Plusieurs acteurs du monde rural ont vu leurs compétences renforcées par le Code rural de Maradi ce week-end, une initiative qui vise à prévenir et gérer les conflits. Dans le magazine de ce jour, nous verrons comment les déplacés du village de Tingara, dans le nord de Tillabéri, vivent en harmonie sur leur nouveau site TADRES depuis 2018. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous débutons avec cette brève. Plusieurs familles maliennes au nombre de 476 personnes à tout âge confondu ont été refoulées de l'Algérie la semaine dernière et déposées à Asmaka en territoire nigérien. On compte 64 hommes, 143 femmes et 209 enfants mineurs. Selon le comité de gestion des refoulés d'Asmaka, ces personnes maliennes appartiennent à la tribu d'Aoussak ayant trouvé refuge en Algérie. Célébration ce 20 juin de la Journée mondiale des réfugiés avec pour thème l'espoir loin de chez soi. À Niamey, l'UNHCR a organisé une conférence au cours de laquelle le représentant de l'UNHCR a indiqué que le Niger est l'un des pays qui donne la chance aux réfugiés à travers leur inclusion. Emmanuel Gignac, que je vous propose d'écouter sur des propos recueillis par Fatima Lamiaro.
Le Niger est aussi exemplaire par sa vision et son intime conviction que l'inclusion des réfugiés dans les communautés d'accueil où ils ont pu trouver paix et sécurité est sans doute le moyen le plus efficace de reconstruire leur vie tout en contribuant au développement des régions qui les accueillent. Très concrètement, le Niger fait cela en octroyant le droit aux réfugiés à postuler à des emplois, à s'inscrire dans des écoles et à accéder à des services tels que le logement ou les soins de santé. Pour les réfugiés, loin de chez eux, le fait de se sentir accepté et accueilli est source d'espoir. Et nous donnons de l'espoir aux réfugiés lorsque nous leur donnons les moyens de se développer, de prospérer et de choisir la vie qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Nous avons également pris en considération l'importance de l'éducation, permettant par exemple aux étudiants nigérians de DIFA de passer leurs examens grâce à un accord inédit de partenariat entre les ministères de l'Éducation nationale du Niger et du Nigeria.
Une trentaine de chefs de brigade de la division protection des mineurs et des femmes sont à Niamey pour un renforcement de capacités sous l'amélioration des procédures de gestion des violences basées sur le genre. Une initiative de la police nationale et du centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAFA. Selon la chef de la division protection des mineurs et des femmes, les violences basées sur le genre continuent d'être enregistrées, d'où la nécessité de former les officiers de police sur leur prise en charge. Écoutons la commissaire principale de police Zouer Hassan Houssezi.
Pratiquement tous les jours, nous enregistrons des cas de VBG dans les services d'enquête, des cas de viol, des cas de violence physique et les agressions sexuelles. Vous avez le détournement de mineurs et les actes impudiques sur mineurs. Donc tout ça, là, ce sont des infractions à la loi pénale que nous enregistrons au niveau de la division de protection des mineurs et des femmes qui sont prises en charge par cette division. Pendant certaines périodes, nous enregistrons des chiffres vraiment en hausse, tels que pendant les vacances, les enfants sont à la maison. Donc nous avons jugé utile de regrouper les différents chefs de brigade protection mineure et femmes pour pouvoir s'imprégner totalement de la question liée au genre. Pour que la prise en charge soit efficace, il faut avoir le minimum de bagages concernant les questions relatives au VBG et maximiser dans l'avenir pour réduire ces cas de violence basée sur le genre.
La situation sécuritaire dans le département de Dindimi devient préoccupante. Par exemple, les habitants du village de Gagala, situé à 13 km de Dindimi, subissent des attaques des individus armés. Ces derniers temps, les habitants du village ont quitté leur maison pour passer la nuit en brousse. Aïssa Oumarou, chef du village de Gagala, lance un cri de cœur à l'endroit des autorités administratives. Elle est au micro de Mena Abdoulaye.
La sécurité ne fait que se dégrader ici. Même ces derniers jours, des éléments de Boko Haram ont fait irruption dans le village et ont tué plusieurs personnes. Au moment où je vous parle, vraiment, nous sommes dans la psychose. Beaucoup de nos sujets ne passent pas la nuit dans leur maison. Chaque fois, le gouvernement nous dit qu'il y aura des militaires qui vont venir ici pour nous sécuriser. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Nous vivons dans la psychose. Hier, quand l'orage a commencé, chacun a quitté son domicile pour fuir. Il a fallu le matin pour revenir. Cela m'écœure vraiment. Je demande au gouvernement d'écouter notre cri de cœur. Je veux parler du préfet, du maire, du gouverneur, qu'ils aient pitié de nous. Si nous quittons notre village, où allons-nous partir? Il n'y a pas là où nous irons nous installer. Donc, je veux vraiment rester pour servir mes sujets.
La suite de cette édition, dans le souci de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses 15 orphelins dont elle a la charge, Madame Begounou, la soixantaine environ, vend du charbon de bois au marché de Dossou. Notre reporter Hawa Ousmane, un reportage de la région, l'a rencontré. Voici son témoignage.
Je vends du charbon pour nourrir les orphelins. C'est les enfants de mon défunt fils, une victime d'un accident de la circulation en partance pour le Nigeria. Nous n'avons personne pour nous venir en aide. C'est avec ce petit commerce que je les prends en charge. Ils ont de la nourriture et des chaussures. C'est des bouts de bois que je brûle pour avoir du charbon. Le sac, je le vends à 2000, des fois à 2500. Je viens de Kargibongo pour chercher ma subsistance. Je ne vais qui est mandé auprès de personne. C'est pour éviter les incompréhensions et les humiliations. Avec les revenus, j'achète du sel et autres. Je m'occupe de 15 personnes. Je les nourris matin, midi et soir. Quand ils tombent malades, les soins sont à mes frères. Je suis leur seul parent. Pendant la saison des pluies, je vends ce que je peux. Si je ne trouve rien, on reste le ventre vide.
Nous restons toujours dans la région de Dosso pour parler du soumbala ou marbi, qui est un condiment utilisé dans la cuisine et très prisé par certaines femmes de la région. Une équipe de Studio Kalangu, un reportage de la région, a rencontré Fatih. Elle prépare du marbi et le commercialise au marché de la commune de Dosso. Elle explique le processus de préparation au micro de Rafika Taher.
Je vends du soumbala, des feuilles de baobab et du haricot. Je prépare le soumbala moi-même, mais à un moment, je reçois de l'aide. Tu le piles légèrement, puis tu le vends. Entre-temps, tu avais déjà placé une marmite d'eau sur le feu. Une fois que l'eau bout, tu l'ajoutes et tu attises le feu. Quand c'est cuit, tu réduis le feu et tu mélanges bien avec un peu de potasse et tu le verses dans un sac. La deuxième et la troisième nuit, tu repiles et le matin du troisième jour, tu le fais sécher. Avec la volonté de Dieu, on gagne parce que tes enfants n'iront pas voir ailleurs pour leurs besoins. Tu arrives à manger et à donner aussi ta contribution lors des cérémonies de mariage. Nous vendons la tasse à 750 francs et la demi-tasse à 500 francs.
Je vous le disais dans les titres, le Code rural de Maradi a organisé une formation de base le dimanche 18 juin à ses membres, aux secrétariats départementaux, communaux et villageois du Code rural sur les textes qui régissent leur institution. Il s'agit surtout de renforcer la capacité de ses participants à mieux prévenir et gérer les conflits. Pour Gallo Badagé, secrétaire permanent régional du Code rural et formateur, la formation des acteurs ruraux est primordiale, surtout en cette période de saison des pluies. Il est au micro de Mohamed Maman.
Le niveau village, commune, jusqu'au niveau département, c'est la partie la plus essentielle de nos activités parce que c'est le niveau qui est proche des ressources à sécuriser, les ressources françaises. Donc, c'est eux qui sont actifs, c'est-à-dire ceux qui ont l'obligation de la conduite des activités de l'ensemble d'une manière pratique au niveau des terrains. Donc, il faut que ce niveau soit bien préparé pour qu'on ait des données ou des informations, des rapports fiables sur la mise en œuvre des activités du code rural aux différents échelons. Comme on dit, on est à la période dans la plupart des activités de sécurisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui disposent des terres, ils ont besoin d'avoir des actes qui disent que c'est leur propriété. Ou bien maintenant, ceux qui ne disposent pas, ceux qui font l'usage sous forme contractuelle, ils ont besoin aussi de documents qui les sécurisent dans le contrat ou le prêt qu'ils sont assurés ou sous forme concessionnelle pour les assurer de la mise en valeur de la ressource.
Beaucoup de parents nigériens qui ont duré avec leur famille en Côte d'Ivoire ignorent l'importance des pièces d'état civil pour leur progéniture. C'est le cas du certificat de nationalité, car après les études, pour accéder à une fonction, il faut un certificat de nationalité. Le Niger et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui ont souscrit à la double nationalité. Abdou Abrahman, attaché académique à l'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire, explique au micro de notre envoyé spécial Tila Amadou.
Il y a des parents qui ont duré ici en Côte d'Ivoire, c'est des Nigériens, mais ils n'arrivent pas à faire les pièces d'état civil pour leurs enfants. C'est notamment le cas de du certificat de nationalité, parce que vous savez qu'après les études, quand vous avez vos diplômes, pour accéder à une fonction, effectivement, on va vous demander votre nationalité. Or, le Niger et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui ont souscrit à la double nationalité. Donc tu peux avoir la nationalité nigérienne et celle ivoirienne aussi, en même temps. Et je pense qu'il faut encourager aussi le gouvernement à poursuivre dans la politique qui consiste à octroyer des bourses. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont nés ici, dont les parents sont des Nigériens, mais à qui, après l'obtention du baccalauréat, ils souscrivent au même titre que les étudiants nigériens et ils obtiennent aussi la bourse s'ils remplissent les critères.
Ouverture hier à Madawa de la 4e audience de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Koni, délocalisée à Madawa. C'est pour juger les personnes poursuivies dans le cadre des événements survenus à Bangui en novembre 2016, au cours desquels 22 personnes ont perdu la vie. Un extrait du discours du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Koni, Waziri Maman.
Un seul dossier est inscrit au rôle de cette audience impliquant plus d'une vingtaine de personnes accusées et prévenues confondues devant comparaître pour des infractions telles que les cas de meurtre, cas d'incendie volontaire d'habitation, coup mortel avec arme, complicité de meurtre, incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes. Ces infractions résultent des événements malheureux qui ont eu lieu en 2016 à Bangui. Et ce jour-là, une folie humaine s'est emparée de cette localité entraînant la mort de 22 de l'air, dont certains dans des conditions inhumaines, ayant vécu une mort atroce car il y a des personnes qui ont été brûlées vives avec leurs enfants. En effet, cette barbarie est incompréhensible et ne peut se justifier dans un état de droit et dans une nation où tous les individus partagent une même communauté de destin et sont censés être des frères comme le prescrit notre devise nationale. Que ce procès soit l'occasion de réconciliation entre les deux communautés.
Le magazine de ce soir nous amène sur le site des déplacés de Tadres dans la périphérie de Tillabéri où vivent plus de 400 ménages depuis le 15 décembre 2018. Cinq ans après, ces déplacés internes qui ont quitté le village de Tingara s'adaptent à leur environnement aujourd'hui. Suivons le reportage de Habib Garba.
C'est après un ultimatum d'un groupe armé non étatique que les déplacés se sont retrouvés sur ce périmètre de 2 hectares. Écoutons Boubacar Morou, le délégué des déplacés, qui explique comment ils vivent aujourd'hui.
Lorsque nous étions chez nous, les bandits sont venus tuer des gens parmi nous. Et une semaine après, ils étaient revenus, sommer tous les hommes de quitter le village avant 10 heures sous peine d'être fusillés. C'est pourquoi nous nous sommes tous déplacés pour venir ici, où certains d'entre nous font des petits commerces et d'autres se débrouillent avec les charrettes.
Si les hommes mènent des activités génératrices de revenus dans la ville de Tillabéri, les femmes, elles, sont impliquées dans toutes les prises de décisions. La présidente des femmes déplacées, Mamou Abdoulaye.
Dans toutes les prises de décisions concernant la vie socio-économique de Tillabéri, nous sommes associés à travers nos délégués. Nous ne sommes pas marginalisés. Nous participons à toutes les manifestations. Même la journée internationale de la femme, le 8 mars, nous l'avons fêtée ensemble. Nous nous sentons vraiment intégrés.
La cohabitation entre les populations déplacées et les autochtones se passe très bien. Des mariages sont célébrés entre les jeunes des deux communautés. Balkissa, une jeune fille de Tillabéri, témoigne.
Même la semaine dernière, il y a eu un mariage entre un autochtone et une fille de déplacée. Nous avons eu plusieurs cas ici. Ce n'est pas parce qu'ils sont des déplacés que les autochtones doivent les écarter de leur vie sociale. Nous sommes les mêmes, formant une seule communauté. Et ce qui est arrivé à ton prochain peut aussi t'arriver. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus chez nous que nous n'allons pas nous marier avec eux. Nous sommes prêts à les accepter comme toute autre personne.
Les autorités municipales se réjouissent de cette bonne collaboration. Le vice-maire Munkaila Assagit.
Depuis leur arrivée à aujourd'hui, on n'a aucun problème avec eux. La mairie est témoin. Jamais eu de problème entre les locaux, c'est-à-dire les populations autochtones, et ces déplacés.
Si les déplacés s'adaptent aujourd'hui à leur environnement, c'est parce que la population hôte, l'État et ses partenaires ont conjugué leurs efforts.
Ce reportage est réalisé dans le cadre du projet Prévention de la violence et médias avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de Suisse. 25 journalistes de 7 pays de la sous-région bénéficient d'un cycle de formation organisé dans le cadre de ce projet dont Habib Garba.
Fin de ce journal, merci de votre attention.